Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le tout premier épisode de mon podcast MM Mots Magiques consacré au vocabulaire contemporain. Je m'appelle Felicia et je suis étudiante en français, italien et géographie à l'université d'Augsbourg. J'étudie pour devenir professeur. Dans le cadre du séminaire de niveau avancé, les mots du français contemporain, dirigé par la professeure Daniela Pietrini, j'ai mené une recherche sur la créativité lexicale dans la langue des jeunes et dans la publicité française. Dans cet épisode, par contre, nous nous concentrerons exclusivement sur la publicité française. Je vous invite à un voyage fascinant au cœur de la langue française pour explorer un phénomène qui évolue sans cesse, les néologismes. Ces nouveaux mots qui apparaissent un peu partout au quotidien, sur les réseaux sociaux et, plus particulièrement, dans la publicité des campagnes marketing. Ils reflètent non seulement la créativité linguistique, mais aussi les changements de notre société. Alors installez-vous confortablement, ouvrez grand vos oreilles et partons ensemble à la découverte de ces petites richesses du français contemporain. Imaginez un instant. Vous êtes dans un supermarché, vous flânez entre les rayons sans vraiment réfléchir. Et soudain, quelque chose attire votre regard. Un paquet avec un nom étrange, nouveau, presque magique. Crucipat, Framili, Chocapic. Vous ne savez pas exactement ce que ce mot signifie, mais il vous captive. Il sonne bien, il vous parle. Est-ce un mot courant dans notre langue? Non, pas forcément. Mais il éveille votre curiosité, vous donne envie d'en savoir plus, de goûter, de l'acheter. Et vous, avez-vous déjà été tenté par un produit à cause de son nom? Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'univers de la langue, de la publicité et découvrir comment les néologismes peuvent devenir des véritables armes pour capter notre attention et nous persuader. Alors la question qu'on se pose, c'est: est-ce qu'un simple mot inventé peut vraiment nous faire acheter quelque chose? Franchement, c'est une question tout à fait légitime et c'est justement ce dont on va parler aujourd'hui. On va y réfléchir ensemble et essayer de trouver une réponse. Pour nous aider, j'ai demandé l'avis de quelques amis français qui ont gentiment accepté de partager leur opinion avec nous. Comme ça, nous aurons aussi le point de vue de vrais locuteurs natifs et ça rendra la discussion encore plus chouette. Qu'est-ce qui nous attend dans l'épisode d'aujourd'hui? Au début, on va voir rapidement c'est quoi la pub, quelles sont ses caractéristiques principales, qu'est-ce qu'un néologisme et quel rôle joue-t-il pour rendre une pub persuasive. Ensuite, on passera à quelques exemples concrets et enfin, on en tirera notre conclusion. Vous êtes prêts? Alors allons-y! Avant d'entrer dans les détails, commençons par clarifier les bases pour être sûr que nous partons du même point. Alors qu'est-ce que la publicité exactement? Qu'est-ce qui en fait partie? Et quelles sont les caractéristiques principales? D'après le dictionnaire Larousse, la publicité est une activité ayant pour but de faire connaître une marque et d'inciter le public à acheter un produit. Ok, on connaît maintenant la définition officielle, mais la publicité c'est bien plus qu'un simple mot. Alors intéressons-nous à ce qui la caractérise vraiment. Qu'est-ce qui fait qu'une publicité fonctionne? Quels sont les éléments qui attirent notre attention et nous incitent à agir? Avant de vous présenter les réponses qu'on trouve dans la littérature ou sur Internet, j'ai demandé l'avis de mes proches. Voici leurs réponses.
J'ai l'impression qu'elles sont toutes construites pour que ça reste dans la tête des enfants. Parce qu'en fait, une marque qui cherche à s'établir à long terme, elle veut traverser les générations pour traverser le temps. Et donc, en impactant les enfants, tu restes dans la tête des adultes de plus tard.
Merci Ale pour ton opinion. Maintenant, la réponse de Macha.
Une publicité efficace aurait la capacité de retenir l'attention, de retenir l'œil quand on entre dans une bouche de métro ou de faire tendre l'oreille quand on l'entend à la télévision ou à la radio ou encore dans la rue. Les éléments qui attirent vraiment l'attention seraient, je ne sais pas exactement, mais quelque chose qui sort de l'ordinaire, sachant qu'on est absolument surstimulé par ce genre de sollicitations.
Merci Macha pour ton point de vue. Il nous reste encore Rémi et Lai. D'abord la réponse de Lai.
Pour moi, une publicité fonctionne lorsqu'elle touche le maximum de personnes. Des éléments qui vont me donner envie d'acheter, ça va souvent être la popularité du produit, sa mise en avant, son utilité aussi. Est-ce que c'est vraiment nécessaire pour moi de l'acheter?
Et Rémi, toi, tu en penses quoi?
Selon moi, ce qui fait qu'une publicité fonctionne, c'est son slogan et son logo.
Alors, je résume. Quelque chose qui reste dans la tête des enfants. Quelque chose qui retient l'attention, qui sort de l'ordinaire. Mais aussi son slogan et son logo. Et elle doit toucher un maximum de personnes. Et en fait, on retrouve pas mal de ces aspects dans d'autres sources aussi. Des caractéristiques importantes sont la concision, la simplicité et l'efficacité. Les publicités utilisent peu de mots avec des slogans courts, percutants et souvent très faciles à mémoriser. Ensuite, le langage persuasif. Tout est fait pour attirer l'attention et influencer le comportement du consommateur. On retrouve souvent l'usage de l'impératif, des hyperboles, bref, tout pour nous séduire. Les publicités s'adaptent aussi au public en utilisant un langage simple et accessible pour que tout le monde puisse comprendre facilement. La présence d'un contact intellectuel ou d'une culture partagée rend l'argumentation bien efficace. Et enfin, il y a la créativité lexicale. Métaphores, jeux de mots, néologismes, les publicitaires aiment jouer avec la langue pour surprendre et marquer les esprits. En résumé, la publicité, c'est un mélange subtil de stratégie et de créativité où chaque mot compte pour capter notre attention, rester dans notre mémoire et pour nous faire acheter. Jusqu'à présent, on a bien souvent mentionné le mot néologisme. Mais c'est quoi exactement? Qu'est-ce qui entre dans cette catégorie? Et surtout, quel rôle joue-t-il pour rendre une pub vraiment persuasif? D'après Le Robert, un néologisme est soit un mot nouveau, c'est alors un néologisme de forme, soit un sens nouveau attribué à un mot ou une expression existant, c'est alors un néologisme de sens. Ce qui est sûr, la pub crée en effet de nouveaux mots. La publicité est souvent perçue comme un lieu où la langue se relâche, où l'on montre des façons de parler peu recommandées sans retenue. On y trouve plein de types de néologismes. Les néologismes ludiques, les jeux de mots, les mots-valises, les emprunts, les composés, les dérivés et bien d'autres encore. Alors pourquoi les néologismes marchent-ils si bien en publicité? Bien d'abord, ils aident à mémoriser. Un mot original, s'il est facile à prononcer et à retenir, reste beaucoup plus longtemps dans la tête du consommateur. Ensuite, ils attirent l'attention. Un mot inventé ou détourné se distingue du reste et crée un effet de nouveauté. Ça stimule notre cerveau et ça nous donne envie de comprendre, de tester ou même de goûter. Et puis, il y a l'effet émotionnel et ludique. Les néologismes jouent sur l'humour, les jeux de mots, l'exagération et tout ça rend la publicité plus sympathique et agréable à retenir. Maintenant, passons à quelque chose de concret. Quelques exemples de pubs où les néologismes font vraiment leur effet. Par curiosité, j'ai demandé à mes amis quelle pub leur vient en premier en tête quand ils pensent à la publicité. Ainsi, je voulais voir si certaines de ces pubs utilisaient peut-être même des néologismes. Voici les réponses.
La première pub qui m'est venue instinctivement en tête, c'est la pub des produits laitiers.
Pour moi, la première publicité qui me vient à l'esprit, c'est les produits laitiers.
La pub qui me vient en tête soudainement, c'est la pub de Feu Vert. Donc c'est un garage automobile qui fait plus principalement des changements de pneus. Mais aussi diverses choses.
Donc, pour ma part, la première publicité à laquelle je pense, c'est une publicité que j'entends sur Spotify en ce moment et qui ne me sort pas de la tête, car elle m'énerve un peu. J'entends régulièrement cette publicité pour un alcool fort qui est Summersby.
Waouh, très intéressant. On a entendu deux fois. Ale et Rémi ont dit la pub des produits laitiers. Ale explique que c'est probablement à cause du jingle qui reste surtout dans la tête des enfants. Ainsi, une pub reste pas seulement une pub, mais devient un souvenir d'enfance. La pub Summersby, Summerspy, Masha pense à cette pub car elle lui a été montrée très souvent et elle n'arrive plus à l'oublier. Et là, il nous parle de la pub du feu vert. Elle ressemble à un court-métrage, presque à un film d'action, et à la fin, il est dit « Feu vert, la patte de l'expert ». Un petit jeu de rimes qui, bien sûr, reste facilement en tête. Nous pouvons donc constater qu'il n'est pas nécessaire que des néologismes soient présents dans les publicités pour qu'on s'en souvienne. D'autres éléments sont également importants. Mais pour vous montrer quand même quelques exemples des néologismes dans la pub française, j'en ai apporté quelques-unes. Voici la première.
Chérie, si on déjeunait sur la terrasse.
On n'a pas de terrasse.
Bon, tu peux descendre, j'ai mis la table dehors. Enfin, sur la terrasse.
Qu'est-ce que tu racontes, on n'a pas de terrasse.
Et moi qui l'ai monté ce matin pendant que tu faisais les courses. Je les ai emboîtés, quelques vis, voilà. Et t'as pas vu la piscine?
Attends, je vais chercher mon maillot.
Non, je plaisante.
Lame de terrasse, sol terrabaya, 44,90 € le mètre carré. Castorama, c'est castoche.
Castoche, c'est une expression familière, un mot valise qui combine Castorama et Fastoche. Castorama, c'est une chaîne française de magasins de bricolage, de décoration et d'aménagement de la maison. Et Fastoche, c'est l'argot des années 90 pour dire facile. Ce mot valise a été utilisé comme slogan par Castorama en 2010. Un petit jeu de mots qui donne immédiatement l'impression que faire ses achats chez Castorama est simple et accessible. Ça crée un lien affectif avec le consommateur et rend la marque plus sympathique et proche. Après avoir vu ça, voilà encore un autre exemple.
Les hommes me trouvent terriblement sexy. Les chéris. Merci, merci à toi. J'exfume. Je vaporise. C'est bidonnant. C'est extraordinaire.
J'exfume, une facilité extraordinaire.
Dans cette pub, ils ont créé un mot valise en combinant Jex, la marque du produit, et l'adjectif extraordinaire. Un jeu de mots qui fait tout de suite son effet. Il attire l'attention et transmet une idée de qualité exceptionnelle. Ce néologisme valorise le produit et le distingue de ses concurrents. Et encore une troisième publicité.
Une quiche en cuisine, mon grand. Mais tu as la pâte croustipate au beurre et à la farine française. Avec ta pâte croustipate, c'est toi le chef, le boss, le king de la quiche. Tu peux vraiment être fier, fier d'avoir choisi la pâte origine France garantie. Croustipate, et la pâte est en toi.
Croustipate, le nom est un néologisme, un mot inventé spécialement pour le produit. Il combine crousti, de croustillant, et pâte. Ce mot valise évoque à la fois la texture et l'usage du produit. Ça rend le produit facile à retenir et appétissant. On a donc souvent rencontré la forme du mot valise. Et comme le mot valise représente le cœur de notre podcast, il est ici tout à fait important de définir ce mot. D'après le Grand Dictionnaire Terminologique, un mot valise désigne un mot résultant de la fusion d'éléments empruntés à deux mots ou plus rarement, à plusieurs mots. Très souvent, on combine la partie initiale d'un mot et la partie finale d'un autre mot et on unit les sens respectifs de ces deux formes. Mais ce qui devient de plus en plus courant, c'est ce qu'on appelle le brand verbing, le moment où les noms de marque deviennent des verbes. Des exemples bien connus sont, par exemple, googler de Google, photoshopper de Photoshop, uberiser de Uber, ou scotché de Scotch, la marque du ruban adhésif. Et soyez honnête, personne d'entre vous ne peut me dire qu'il n'a jamais utilisé ces mots lui-même. Oui, je vous ai bien eu là. Mais oui, moi aussi je les utilise. Nous les utilisons tous, ces néologismes. Ces mots apparaissent, entrent dans notre langage et y restent souvent avec grand succès. Voilà la vérité. Aujourd'hui, on a donc entendu que la publicité repose souvent sur des messages courts, simples et percutants, et qu'elle aime surtout jouer avec la langue. Les néologismes, en particulier les mots valises, rendent les slogans plus originaux, plus mémorables et plus convaincants. On a aussi vu que certaines marques vont encore plus loin jusqu'à devenir elles-mêmes des verbes comme googler ou uberiser. Bref, la créativité lexicale est vraiment au cœur de la communication publicitaire. Du coup, jusqu'ici, tout va bien. Ça a l'air génial. De super produits, bien marketés, et tout le monde est content. Mais où est le problème ? Pour revenir encore une fois sur notre question du début, est-ce qu'un simple mot inventé peut vraiment nous faire acheter quelque chose ? J'aimerais bien vous faire entendre ce que Macha m'a dit dans un de ses vocaux.
Je me plais généralement à penser que les publicités ne fonctionnent pas sur moi parce que j'essaie de consommer de façon responsable et de ne pas trop acheter, de surtout ne pas être influencée, de ne pas consommer quelque chose juste parce qu'on m'a dit de le faire. Mais forcément, mon compagnon me rappelait tout à l'heure, forcément que tu es influencée par plusieurs types de publicités. Par exemple, quand je suis au magasin, dès qu'il y a des produits un peu naturels, etc., je vais être plus apte à les acheter.
J'aime bien cette idée. On essaye peut-être de ne pas se laisser influencer par la pub, mais au fond, c'est plus fort que nous. Le linguistique français Pierre Guéraud dit à propos de ce sujet « Que dire enfin de la publicité qui, sur nos routes, nos murs, nos écrans, souille le vocabulaire et mutile la syntaxe ?» Une critique assez sévère. Qu'en pensez-vous ? Êtes-vous du même avis ? La publicité et donc les néologismes qu'elle utilise si souvent menacent-ils notre vocabulaire et notre syntaxe ? Ça semble être un sujet passionnant pour un prochain épisode de mon podcast. J'espère que cet épisode vous a plu et qu'il a permis de mettre en lumière la richesse, la complexité et l'intérêt scientifique du vocabulaire du français contemporain. N'hésitez pas à laisser votre avis dans les commentaires et à mettre un like si l'épisode vous a plu. À la prochaine !